Carrefour.
Quand vous me dites, les JO de Paris 2024, ça va être énorme! Et pour une fois, toute la France sera derrière Paris! Eh bien, je vous réponds que pour célébrer les Jeux Olympiques de Paris 2024, il y a une collection exclusive chez Carrefour. Comme par exemple, le ballon de foot Paris 2024 à 9,99€ seulement. Alors? Ah ben ça, c'est énorme! Et c'est dans vos hypermarchés Carrefour.
Carrefour, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Jusqu'à épuisement des stocks, produits officiels sous licence, détails sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous, c'est l'heure du journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. La plus grosse journée de l'année à la SNCF qui vend depuis ce matin 8 millions de billets de train pour les fêtes de fin d'année, mais pas spécialement de bonnes affaires. La cacophonie à l'Assemblée pour la première séance de questions au gouvernement. Invective à propos des affaires, vous l'entendrez. Et Marseille qui gagne à nouveau en Ligue des Champions de football. 4-1 hier soir contre le Sporting, en attendant Paris ce soir contre Benfica.
Ça y est, la SNCF vient de mettre en vente ses billets de train pour les fêtes de fin d'année.
Exactement, 8 millions de billets précisément depuis 6 heures ce matin dans un contexte d'inflation et de fréquentation record des trains. Romain Houck pour RMC, vous avez fait vos réservations ce matin. Vous avez scruté les prix, les destinations. Question donc que je vous pose, est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires?
Alors oui, il y a bien des petits prix, mais en semaine, pas forcément sur les périodes les plus tendues. Et cette année, Noël et Nouvel An tombent un week-end. Alors les premiers billets ont été mis en vente il y a maintenant environ 45 minutes. Concrètement, pour un Paris-Marseille, un aller-retour le week-end de Noël vous coûtera en moyenne 150€ contre une soixantaine d'euros l'aller-retour si on fait le même trajet en semaine quelques jours plus tôt. La grosse nouveauté de ce matin, c'est plutôt l'ouverture de deux nouvelles destinations accessibles en Ouigo depuis Paris, Brest et La Rochelle, avec des premiers prix autour d'une vingtaine d'euros. Mais encore une fois, la semaine seulement, le week-end, c'est beaucoup plus cher.
Voilà, donc on résume, il y a des bonnes affaires, mais pas pour le week-end de Noël. Et aussi, c'est la plus grosse journée de vente en année à la SNCF.
Ah oui, sur les 8 millions de billets mis en vente à partir d'aujourd'hui, 1 million pourrait trouver preneur rien que ce mercredi, sur son site internet. La SNCF s'attend à un trafic multiplié par 5, voire par 10.
Voilà, je vous signale que le trafic est revenu à la normale hier soir à la gare Saint-Charles à Marseille après une panne électrique qui a coupé le trafic de gros retards, voire des suppressions de trains toute une bonne partie de l'après-midi hier. Dans l'actualité ce matin, il y a Julien Bayou qui sort du silence, l'écologiste qui répète qu'il n'y a pas d'affaire Bayou et que sa collègue Sandrine Rousseau est allée trop loin en révélant les accusations de harcèlement moral à son encontre, des faits pas répréhensibles. Voilà ce que dit Julien Bayou. Les affaires, tiens, qui ont agité la première séance de question au gouvernement hier à l'Assemblée nationale. Cacophonie quand ces dossiers Quatennens, Scolaire, Dupont-Moretti aussi ont été évoqués. Un avant-goût certainement de ce qui nous attend pendant le quinquennat, comme nous le raconte Hélène Terzian du service politique à RMC.
Première intervention d'Aurore Berger.
Tout a commencé par ce qu'elle appelle une petite gifle.
Et première allusion enflammée de la chef de file des députés macronistes aux violences conjugales de l'insoumis Adrien Quatennens, soutenu par une partie de son clan.
Oui, nous devons faire mieux. Et ça commence par nos attitudes. Ça commence par les mots que nous employons. Ça commence par le fait de respecter les victimes.
L'écologiste Sandrine Rousseau répond par un signe féministe, colère dans les rangs insoumis.
Mana Bombono, vous continuez à invectiver l'Assemblée?
Donc je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
La députée Danielle Obono sera privée pendant un mois d'un quart de son indemnité parlementaire. Autre échange tendu entre Hugo Bernalicis et le ministre Olivier Véran sur les ennuis judiciaires au sein de l'exécutif.
Quels sont les points communs entre les affaires Alexis Kohler et l'affaire Éric Dupond-Moretti?
J'aime beaucoup les devinettes, mais ici c'est le Parlement.
En sortie d'hémicycle, le député du MoDem, Erwan Balanant, est désespéré.
C'est assez violent, je trouve, la façon dont on reprend là. C'est quand même assez souvent un show, quoi. Je trouve ça dommage.
Des invectives qui, selon d'autres députés, empêchent de discuter du fond des textes.
C'est dans une ambiance plus calme que les députés ont voté hier soir la mesure phare du projet de réforme de l'assurance chômage, mesure qui permettra de moduler la durée d'indemnisation en fonction de la situation sur le marché du travail.
On passe à la question des carburants, cette crainte de pénurie. D'ailleurs, vous venez témoigner ce matin au 32-16, est-ce que vous trouvez facilement du carburant ce matin en France? La grève continue chez Total, 3 sites toujours à l'arrêt.
Dont la raffinerie de Normandie, la plus grande de France, mouvement sur les salaires à la moitié des stations-service Total du périphérique à Paris, tiens, sont hors service. Les énergéticiens, eux, EDF, Engie, Total Énergie, sont convoqués ce matin 8h15 à Bercy. Pourquoi ? Pour parler des prix de l'énergie dans les PME. Le gouvernement leur reproche en fait de ne pas jouer le jeu en gonflant ces prix. Il leur sera donc demandé de fournir des tarifs raisonnables, comme nous l'explique Victor Joannin pour RMC.
Ce coup de pression du gouvernement est salué par les chefs d'entreprise, mais attention, prévient le consultant en énergie Nicolas Leclerc, Bercy ne pourra pas obliger les fournisseurs d'énergie à revenir à des offres d'avant-crise.
Un fournisseur d'énergie, dans l'absolu, s'il gagne 5% de marge brute, c'est déjà pas mal. Donc il n'y a pas d'argent magique à aller chercher de ce côté-là.
Les fournisseurs d'énergie sont devenus des boucs émissaires faciles dans un marché de l'énergie complètement déséquilibré, souligne Julien Tédé, le directeur général d'un courtier en énergie.
La demande d'énergie, de gaz et d'électricité, est trop forte par rapport à votre production d'électricité. Donc, reprocher aux fournisseurs de gaz et d'élec de faire des mauvaises offres en ce moment, il me semble que c'est un peu comme si on a de la fièvre et qu'on gronde le thermomètre.
Mais les experts comme Xavier Pinon estiment que les fournisseurs peuvent faire l'effort de laisser plus de temps de réflexion aux entreprises.
Il y a peut-être un an, le délai pour signer un devis pouvait être de 10 jours, par exemple. Et là, vous êtes obligé de demander aux clients de s'engager dans les 24 heures. Donc, vous n'avez pas le temps de comparer.
Les fournisseurs proposent ces devis à durée de vie très limitée à cause des prix qui font le yo-yo, mais ils peuvent donner l'impression aux entreprises de devoir signer le couteau sous la gorge.
La Russie semble reculer en Ukraine. Prise de parole du président Volodymyr Zelensky hier soir pour revendiquer des avancées rapides et puissantes. Ce sont les mots qu'il a employés dans le sud ukrainien, avec une dizaine de villes reprises en une semaine aux Russes. La guerre des nerfs qui continue en Asie, la Corée du Sud et les États-Unis ont tiré 4 missiles hier soir en mer du Japon. C'était une réponse directe à la série de tirs menés par la Corée du Nord la veille, dont celui qui est passé au-dessus du Japon, une première depuis 2017. Le match France-Portugal tourne à l'avantage de la France en Ligue des Champions de football avec la victoire de Marseille, donc 4-1 hier soir contre le Sporting Lisbonne. Première victoire de la campagne européenne pour les Marseillais qui ont joué à 11-10 après l'expulsion du gardien portugais. Ce soir, c'est Paris qui sera à Benfica, un PSG qui a d'ailleurs depuis le Mercato cet été un accent assez portugais, nous explique Arthur Perrault de RMC Sport.
Mendes, Vitinha, Sanchez et Danilo, quatre internationaux portugais au cœur du jeu parisien. Une communauté omniprésente avec laquelle l'entraîneur Christophe Galtier a appris à composer.
Ce qui nous apporte au quotidien, c'est beaucoup de bruit. Ce sont des garçons très attachants, mais qui parlent et qui aiment parler. Avant toute chose, ce sont de grands professionnels, ce sont de bons joueurs. Le football portugais produit des joueurs d'un niveau incroyable.
Une influence portugaise sûre comme en dehors du terrain. Luis Campos, conseiller sportif. Antero Henrique, chargé du recrutement. Les deux hommes forts du nouveau projet parisien. Nicolas Villas, journaliste spécialiste du football portugais.
Maintenant, c'est vrai que tu as des Portugais dans toutes les strates du club quasiment. Luis Campos a apporté ça. Le savoir-faire des dirigeants portugais en train de s'exporter et le PSG s'y est mis avec Antero Henrique et avec Luis Campos également maintenant.
Un rapprochement à oublier le temps d'une soirée, un succès contre le Benfica et Paris se rapprochera un peu plus des huitièmes de finale de Coupe d'Europe.
Voilà, et Charles, on a bien noté le rendez-vous, 21h sur RMC à la radio, RMC Sport 1 à la télé.
Et autre rendez-vous, le Quintet, Quentin, aujourd'hui c'est à Laval.
Ça, ce sera en début d'après-midi à 13h50 sur RMC Découverte, le 14 et le 5, les pronostics ce matin de la Dream Team des courses RMC, le 14 en favori, Élie Dubofour, le 5 en outsider, Diego du KO.
C'était le journal de Quentin Vinet sur RMC, RMC Story, il est 6h37.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Est-ce que vous avez envie, tiens, de retourner au bureau de vote, de retourner aux urnes? Est-ce qu'il faudrait régler la question de la réforme des retraites via un référendum? C'est la proposition notamment de François Ruffin, qui sera l'invité d'RMC et BFM TV à 8h30. Et si le non l'emporte, Emmanuel Macron devrait-il démissionner? Je vous attends au 32-16 pour en débattre tout de suite sur RMC.
RMC Police Justice.
Et comme chaque matin, RMC PJ, une histoire repérée, racontée par le service police-justice de la rédaction. Aujourd'hui, on part en Normandie, à Étretat, où une touriste indienne est décédée ce week-end en voulant faire un selfie trop près des falaises, Nicolas Robert.
Oui, il était un peu plus de 22h ce dimanche soir quand les pompiers et les gendarmes d'Étretat sont appelés. Un homme, un indien en vacances dans la région, avec sa femme, explique en panique que sa compagne vient de faire une chute du haut de la falaise. Les secours arrivent rapidement sur place et commencent les recherches. La marée était haute et malgré les moyens déployés par la gendarmerie, le corps n'a pas encore été retrouvé, indique le procureur de la République du Havre. Selon les premiers éléments de l'enquête, la femme, une indienne de 30 ans, serait tombée de la falaise en tentant de réaliser un selfie. En état de choc, son mari a été pris en charge par les pompiers. L'enquête pour disparition inquiétante se poursuit. C'est la quatrième chute mortelle depuis le début de l'année. Dans deux autres cas, les randonneurs tentaient de faire des selfies. Ils sont tombés dans l'eau et n'ont pas pu être sauvés. Les célèbres falaises d'Étretat, hautes de 90 mètres, connaissent un pic de visiteurs depuis le début de l'année dernière. Le responsable, l'effet Lupin, la série de Netflix avec Omar Sy, qui a conquis 70 millions de fans à travers le monde. Une partie de l'intrigue se déroule dans la commune de Seine-Maritime. Conséquence, le nombre de visiteurs a été multiplié par 10. Les comportements dangereux aussi. Démunie, la mairie assure qu'elle n'a pas le pouvoir de limiter l'accès des touristes à sa ville et ses falaises escarpées.
Récit signé Nicolas Repère pour RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
6h42 sur RMC, bon réveil à tous.
C'est votre avis.
Êtes-vous pour ou contre le report de l'âge légal à la retraite? Ça pourrait être la question du référendum que réclament les élus communistes ou encore le député François Ruffin, qui, je vous le rappelle, sera l'invité de Philippe Corbet à 8h30 sur RMC et BFM TV. François Ruffin, qui voudrait, en cas de victoire du non, qu'Emmanuel Macron démissionne. Alors Emmanuel Macron doit-il aller directement face aux Français sur cette question des retraites? Faut-il passer par un référendum? Écoutez, tiens, le député de Seine-Maritime, député communiste Sébastien Jumel, il a déposé hier une motion référendaire à l'Assemblée.
On n'a pas les mêmes points de vie en bonne santé quand on a fait sa carrière chez Rothschild ou quand on est aide-soignante ou aide à domicile. Si on recule l'âge de la retraite pour ces gens-là, c'est la retraite pour les morts, comme disait la CGT en 1910. Eh bien, puisqu'il y a débat, puisque c'est une question fondamentale, question simple, au peuple français, voulez-vous, oui ou non, voir l'âge de la retraite reculer? Et moi, je suis sûr de la réponse du peuple français.
Le communiste Sébastien Jumel, on va voir ce que vous, vous en dites ce matin au 32-16. C'est votre avis. Tiens, on va accueillir Jean-Jacques qui nous appelle du Gard, c'est ça? Bonjour Jean-Jacques.
Ouais, bonjour Charles de Malherbe.
Comment ouais, salut, salut Jean-Jacques, bien joué, parfait. Vous avez tout compris, Apolline ou revient Apolline demain. Vous avez tout compris, voilà, Apolline Magnin revient demain, Jean-Jacques. Et on attaque avec vous cette matinée parce que ce matin, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez envie de retourner voter? Est-ce que sur cette question des retraites qui nous concerne tous, est-ce qu'il faut consulter le peuple français, Jean-Jacques?
Non, on va pas aller revoter. Disons qu'à la limite, je crois qu'il faut être assez lucide. On sait très bien, quoi qu'il en soit, que si on veut garder notre système de répartition, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On peut pas rester comme ça. Et la seconde chose, c'est qu'on va aller voter. Donc, il va y avoir 50% d'abstention. Et donc, on va dire, ah ouais, mais là, vous avez vu, c'est pas représentatif, il y a 50% d'abstention. Et la troisième chose, c'est que moi, je veux bien faire un référendum avec la question, faut-il faire un référendum?
Ah, bon, ouais. Alors, on arrive au bout du système avec Jean-Jacques. Non, mais Jean-Jacques, est-ce qu'on peut pas, justement, vous avez raison de pointer l'abstention. On en a beaucoup parlé lors des derniers scrutins, notamment législatifs. Est-ce que le référendum, c'est pas une bonne réponse à cette question de l'abstention, de se dire, si on consulte les Français sur des projets précis, concrets, il n'y a pas plus concernant que la retraite. Est-ce que c'est pas un moyen aussi de faire revenir les Français vers les urnes?
Moi, j'en suis pas persuadé du fait qu'il va y avoir ceux qui vont dire « Ouais, mais la dernière fois, on a voté, on a dit oui, on a dit non, enfin bref, etc. » Et puis quelque part, c'est une réforme qu'il faudra faire. Alors, le président l'avait annoncé. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous les contours, mais c'est compliqué d'avoir tous les contours avec la cacophonie qui est actuellement à l'Assemblée nationale. Mmh. Et puis après, on va faire quoi? Donc moi, ou la question, après, tout va dépendre de la question, comment elle est posée. La question peut très bien poser, voulez-vous conserver notre système de retraite ou pas? Et là, on dit quoi? On dit oui, on dit non?
Oui,
et
non.
Et certains vont dire, mais la question est mal posée, donc on va faire un référendum sur la question à poser.
Le problème, c'est que finalement, quelle que soit la question et quel que soit le référendum, on répond jamais vraiment à la question. Ça va forcément se transformer en référendum pour ou contre Emmanuel Macron. Hein. C'est ça qui se passe en général.
Mais la question, ce sera pas pour ou contre Macron. C'est on continue à alimenter notre système de retraite comme on le fait là pour conserver ceux qui vont y être. Moi, c'est dans un an. Et pour les autres. Mais on répondra pas à la question. Donc, à un moment, on va se mordre la queue et ça va durer des mois et des années.
Non, et puis Jean-Jacques, au-delà de la simple thématique, bon, c'est pas ça qui me pose problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a quelques mois, on a voté pour un président qui, dans son programme, très clairement, avait indiqué la réforme des retraites.
Non, pas donc, très clairement. Non.
Mais si, bien sûr que si.
Ah, la il n'avait pas précisé. Il n'avait pas
mais
précisé.
Mais bien sûr
si
que si.
64 ou 65
mais parce que
quand
tu
ne
peux pas détailler. Mais non, mais on savait très bien qu'on allait travailler plus longtemps. Bien sûr que non. Bah, s'il y avait un sujet qui surgissait,
pas si ce serait la réforme à
un sujet qui surgit dans l'actualité pour une raison ou pour une autre, pourquoi pas. Mais là, je veux dire, on va pas. Ou alors, ça sert à rien d'avoir une assemblée à ce moment-là. À ce moment-là, tous les sujets, on fait un référendum et voilà.
Alors à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir des référendums. Ça sert à rien d'avoir des référendums si sur un sujet de société aussi important que jusqu'à quel âge on travaille, on exclut ce que tu es en train
c'est
de faire.
C'est pas un sujet de société. C'est un sujet technique sur lequel personne ne comprend rien et demander aux gens leur avis sur un sujet hyper technique.
Les gens comprennent très bien. S'ils doivent
oui, parce que si tu demandes,
mais à 62, 63,
oui, bien sûr, mais demandez aux gens, est-ce que vous voulez travailler moins longtemps
messieurs,
et avoir
messieurs,
plus
messieurs,
de retraite?
Messieurs,
mais tout le monde va dire oui, évidemment. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent magique.
Dès 6h46.
Bien sûr que oui. Ah, vous voulez travailler moins et gagner
Emmanuel Le Chypre. Il vote pour contre le référendum. C'est ça. On est d'accord.
Non, mais pour moi, il y a deux choses. Il y a un aspect de procédure démocratique et il y a un aspect de thématique.
Justement, sur la procédure démocratique, accueillons Kevin au 32-16. On est en Loire-Atlantique avec Kevin, professeur des écoles. Bonjour Kevin.
Bonjour Charles.
Pour le référendum?
Ouais, moi je suis pour. Alors pas sous la forme oui-non en fait. Moi, la méthodologie que je proposerais, c'est le gouvernement propose sa réforme. Les différents groupes d'opposition à l'Assemblée proposent des contre-réformes. Tous ces projets de réforme sont évalués par le corps, le dispositif des retraites ou par la Cour des comptes. Ensuite, on organise sur les plateaux télé des débats contradictoires avec les différentes visions des retraites. Et on finit par un vote avec un vote par jugement majoritaire qui était le mode de scrutin qui avait été utilisé lors de la primaire populaire où chacun peut s'exprimer sur chacune des propositions, ce qui permet d'éviter de transformer en fait ce référendum en référendum pour ou anti-Macron. Et de détourner du coup l'objectif du vote. Et moi, quand j'entends Emmanuel, je pense à cette phrase célèbre des inconnus il ne faut jamais prendre les gens pour les cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. voilà. Moi, je pense que justement, pour moi, l'idéal républicain tel que je l'imagine en tant qu'enseignant, c'est justement que tous les citoyens de notre pays sont capables de s'exprimer sur les sujets, à condition d'être éclairés par des débats, et que le rôle des politiques, c'est justement ça, c'est d'amener des propositions, de les expliquer par la pédagogie, et qu'ensuite, chaque citoyen éclairé va pouvoir faire un choix en fonction de son intérêt et de l'intérêt du pays.
Ah, c'est assez séduisant.
Disait Emmanuel à l'instant.
On en rêve un peu, mais rien
en retraite. Non, les Français sont pas capables d'avoir un avis sur les retraites. C'est trop technique. Kevin nous dit il suffit d'avoir un débat éclairé et chacun peut ensuite se prononcer.
Non mais demander aux gens sur des questions hautement philosophiques, etc. Est-ce que vous êtes pour ou contre la peine de mort éventuellement? Voilà, mais là on est lisez un rapport du corps, c'est imbitable.
On n'est pas obligé de lire tout le rapport du corps pour avoir un avis sur les retraites.
Mais oui, mais c'est pas une question philosophique, c'est une question financière.
Voilà. Oui, c'est aussi une question notre classe politique est-elle capable d'avoir un débat précis, argumenté, éclairé. Ou est-ce que ça va devenir... On voit ce que ça donne à l'Assemblée en ce
l'idée
moment.
L'idée de Kevin, elle est bonne, mais pas constitutionnelle. Hein. La Constitution, elle prévoit des référendums avec une question à laquelle on répond oui ou non. Alors, il faudrait réformer la Constitution pour
ensuite réformer éventuellement les retraites. Ouais. Oui, donc
on crée plein de bidules, des assemblées, des grenelles de ceci, de cela, des conventions citoyennes, etc. Moi, j'aime bien l'idée du classement.
Bah oui, l'évaluation, les réformes par les Français, pourquoi pas, c'est l'idée de Kevin. Merci Kevin d'être venu la proposer de bonne heure sur RMC à 6h49. Je vous rappelle, tiens, que François Ruffin, qui lui veut un référendum sur cette question des retraites, sera l'invité de Philippe Corbet à 8h30 sur RMC et BFM TV. Il est 7h10 sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
Charles Magnin.
Et à 6h51, je vous donne le programme de la suite de cette matinée à 7h40, 9e jour de grève chez Total, de plus en plus de stations à sec. Est-ce qu'on se dirige vers une pénurie? Réponse du représentant des industries pétrolières, Olivier Gantois. Il sera à 7h40 avec nous et vous venez témoigner au 32-16 pour nous dire si vous trouvez du carburant ce matin. Et puis à 8h10, autre sujet sur lequel on vous attend. Un an après la mort de Bernard Tapie, son fils lance une souscription pour lui rendre hommage en faisant ériger une statue. Il sera avec nous dans le parti pris. Et puis évidemment, on va se marrer ce matin. Les deux rendez-vous d'Arnaud Demanche. On va rire à 7h20 et 8h20 sur RMC. Ne le manquez pas. Bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le portrait du jour.
Avec Nicolas Poincaré, le portrait du jour, c'est celui d'Alain Aspect. Le chercheur français a reçu hier le prix Nobel de physique qu'il partage avec un Autrichien et un Américain.
Oui, Alain Aspect, c'est l'auteur d'une découverte fondamentale dans les années 1980. On appelle ça l'intrication quantique. La quantique, c'est la physique de l'infiniment petit. Et l'intrication, on pourrait traduire ça par enchevêtrement. Et concrètement, ça veut dire qu'Alain Aspect a prouvé que l'on pouvait mélanger deux particules, puis les séparer
et s'apercevoir que quelle que soit la distance entre elles, elles restaient corrélées. Si on modifie l'une, on modifie l'autre. C'est un phénomène très intrigant, difficile à expliquer, mais qui ouvre un peu la porte à la téléportation. C'est pour ça qu'Albert Einstein avait émis l'hypothèse de l'intrication, mais l'avait qualifiée de théorie effrayante, et il avait finalement conclu qu'il n'y croyait pas. Einstein avait reçu le prix Nobel de physique en 1922. Le français Alain Aspect est récompensé exactement 100 ans plus tard, donc pour une découverte qui contredit son illustre prédécesseur.
Rien que ça. Est-ce que cette découverte va avoir des applications concrètes ?
Alors, elle a déjà ouvert la voie à ce qu'on appelle l'informatique quantique, qui permet par exemple des communications ultra sécurisées ou bien des mesures extrêmement précises, mais ce n'est que le tout début. L'informatique quantique n'est encore que balbutiante. On mène des expériences qui ne durent que quelques microsecondes, mais à terme, cela pourrait permettre d'espérer des ordinateurs d'une puissance absolument inimaginable. Tout cela donc grâce à cet homme de 75 ans qui est né à Agen d'un père instituteur. Il a été formé à l'école normale supérieure de Cachan avant de lui-même former des générations de physiciens à l'université de Paris-Saclay et à l'école polytechnique. On le dit bon vivant, amateur de foie gras. Il a gardé son accent du sud-ouest et son sens de l'humour. Écoutez-le hier à l'annonce de sa récompense.
Ça a commencé par un embouteillage pour me rendre à l'Académie des sciences, ensuite une réunion à l'Académie des sciences, et puis, sur le coup des 11h, un petit message de mon assistante qui me dit « Il y a quelqu'un à Stockholm qui cherche à vous avoir, est-ce que je peux lui donner votre numéro de portable ?» J'ai dit « Oui
!» Voilà, il a dit oui, il a donc reçu oui. Hier le prix Nobel de physique. Il est le 15e Français à le recevoir. C'est la spécialité où les Français ont le plus brillé.
Oui, et puis on va suivre, il y a d'autres prix Nobel attendus aujourd'hui. La chimie, la paix, je crois, ce sera vendredi. On murmure aussi Michel Houellebecq pour la littérature. C'était le favori des bookmakers, parce que maintenant il y a des paris sur le prix Nobel. C'était le portrait du jour, signé Nicolas Poincaré à 6h54, c'est l'heure des histoires. Et c'est Sébastien Krebs qui se charge de cette magnifique chronique. L'histoire du jour nous emmène à la découverte du bureau de poste le plus isolé du monde, oui.
Oui, alors c'est pas le cadre de vie qui fait le plus rêver à première vue, quoique, sauf si vous aimez le grand froid, moins 15 degrés, pas d'eau courante. Et la vue sur la banquise, on est sur le continent antarctique, l'île du Goodyear, c'est en face de la pointe de l'Amérique du Sud, en face du Cap Horn. Et là-bas, les seuls habitants sont une colonie de manchots. Ils n'ont vu personne ou presque depuis le Covid parce que tout était fermé. Et 4 femmes viennent d'être choisies pour aller rouvrir le site. Elles sont britanniques, elles ont été sélectionnées pour aller vivre là-bas pendant 5 mois. Elles ont été choisies hein, parmi 6000 candidats. Elles vont passer 5 mois au milieu de nulle part face à la banquise et quasiment tout le temps en plein jour en cette saison. Elles racontent à la BBC qu'elles n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend là-bas. Alors elles auront plusieurs missions. Rouvrir le fameux bureau de poste, donc c'est Claire, 23 ans, qui va s'en charger. Parce qu'il y a quand même un peu de passage, il y a des bateaux,
quelques touristes,
il y a quand même 80 000 cartes postales à faire partir chaque année vers une centaine de pays dans le monde. Alors il y a aussi la biologiste Mary et Lucy, la scientifique, elles seront en charge des manchots justement, les compter, les surveiller, les protéger. Et puis Nathalie, 31 ans, elle tiendra la petite boutique de souvenirs, parce qu'il y avait une petite boutique de souvenirs. Nathalie, elle est jeune mariée et elle assume totalement de laisser son mari et de partir à 15 000 km de l'Angleterre vers le pôle sud. Elle dit même que ça lui fait une petite lune de miel en solo.
Oui, pourquoi pas, une certaine idée de la lune de miel. On les embrasse, Nathalie, Lucie, Marie et Claire, qui sûrement nous écoutent, grâce à l'appli RMC, évidemment,
bien
partout
sûr.
Dans le monde, y compris en Antarctique, ça fait sourire Nicolas Poincaré. 5 mois, comme ça,
ça doit être
pour la banquise ouais.
C'est alors, bien payé.
On n'a pas cette précision.
Je sais pas. On n'a pas le
journaliste économie.
Oui, voilà, toujours les chiffres, les chiffres, Emmanuel.
D'informations ne figuraient pas. Dans...
C'était l'histoire de Seb, il est bientôt 7h sur RMC, dans un instant le journal, avec Marguerite Dumont, avec à la une. Ce témoignage RMC que vous allez entendre à Soissons d'une femme violemment agressée, c'est tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.